Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le vignoble duché d'Uzès. Il est très beau, l'importance du flacon, le succès mondial de Riddle et puis le Vino Quiz pour gagner un joli cadeau en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Florence Corbalan, David Cobol, Philippe Aubrac et Jacques-Olivier Pesme. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Pour commencer cette émission Invino sur Radio, retrouve Florence Corbalan, sommelière et chanteuse lyrique, pour accueillir Grégoire Henry, le président et le cofondateur de Vinovea. C'est ça. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Alors racontez-nous là, avant de travailler dans le vin, vous travaillez dans quoi ?
Oula, moi je viens de Bourgogne et je travaillais simplement dans les transports et l'énergie. Je suis d'une formation ingénieur.
Ingénieur d'abord quoi. Florence.
Alors vous êtes venu armé de vos échantillons que vous appelez les vinotes.
Comment est Vinovea d'ailleurs.
Comment oui. le petit échantillon s'appelle la vinote.
La vinote, oui.
Comment vous est venue l'idée de ces échantillons et quand ? Il y a peu de temps
Alors l'idée de ces échantillons nous est venue avec mon associé Tristan. Au restaurant, très simplement. On fêtait quelque chose d'assez important avec nos femmes.
Vous n'avez pas d'argent, donc 2 centilitres, ça suffisait, quoi, c'est ça ?
Pas tout à fait. Et la carte des vins était belle et on a dit au sommelier, un peu au culot, écoutez, nous, on voudrait goûter celui-ci avant de l'acheter. Il nous a dit, vous plaisantez, évidemment, vous allez l'acheter puis vous goûterez s'il est bon.
Ça, c'est un mauvais sommelier.
Et il n'avait pas la capacité
bon,
de nous faire goûter.
Chef Philippe Forembray, ça se passerait pas ainsi.
Et bon, et il se trouve qu'aujourd'hui, nos applications ne sont pas tout à fait en restauration, mais on a voulu créer cet échantillon, qui est un échantillon qui conserve toutes les propriétés organoleptiques des vins, à partir des bouteilles, pour pouvoir démocratiser la dégustation pour les consommateurs et les professionnels.
Alors concrètement, comment vous faites vos échantillons ? Au niveau de la qualité, comment ça se passe ?
Alors, on a travaillé de longs mois, de façon acharnée, pour développer un procédé breveté, Made in France, qui va en fait nous permettre de reconditionner à partir de bouteilles la plupart du temps, sans air, sans oxygène, absolument. On travaille en dessous de 3 ppm, particules par million. On est également en légère surpression pour conserver les arômes dans le vin et en température contrôlée pour ne pas déstabiliser les vins.
Vous avez une usine, c'est ça ? C'est comment c'est organisé ?
On a une ligne de production qui se trouve à Lyon. Et Vinovea aujourd'hui emploie 10 personnes pour pouvoir réaliser ces échantillons-là.
Et les petits flacons sont recyclables, c'est ça ?
Oui, alors c'est un vrai parti pris. On est sur des flacons qui sont légers, incassables, donc en PET recyclable. Ce PET permet en fait de créer des bouteilles à boissons. Une fois que vous avez consommé la vinote, vous la retriez dans le bac vert et elle reformera une bouteille à boissons de manière infinie.
En France, qui sont vos clients ?
Ah, alors, on a commencé réellement avec les cavistes et les sites internet, puisqu'on a voulu pouvoir faire déguster aux consommateurs les vins pour qu'ils puissent faire son choix, connaissance de cause. On parle d'expérience sensorielle dans le vin, on est bien tous d'accord, je pense, autour de la table, et personnel également. Et puis finalement, on a les domaines qui sont venus nous voir sur les salons en disant, vos échantillons, ils m'intéressent aussi, moi, pour faire goûter mon vin à travers les frontières. Quand je dois toucher des cavistes, c'est compliqué. Je ne peux pas envoyer 500 bouteilles à tous les Nicolas, par exemple. Et on a créé justement des coffrets avec différents échantillons qui permettent de montrer une belle diversité des vignerons.
C'est-à-dire qu'à partir d'une bouteille, vous faites combien d'échantillons, par exemple ?
36 x 2, Florence, non ?
Exactement, on en fait 36.
Vous
avez une perte de 1 centilitre, il ne faut pas se tromper quand même. Hein,
alors, on en fait exactement 37. Et la 37e nous sert pour faire ce qu'on appelle la vinote qualité. C'est simplement un test, un moyen de voir s'il y avait eu un souci dans le vin initial, s'il y a un souci sur notre chaîne de production, ce qui n'arrive pas, fort heureusement. Et donc, on en rend 36, qui est un joli nombre quand on parle.
Et là, vous avez quel type de chantilly ? Vous avez quasiment tous les vins de France, les cépages, vous êtes concentré sur les choses ou pas ?
Aujourd'hui, on reconditionne ce qu'on nous donne. Donc, nous, nous n'achetons pas de vin, c'est le modèle chez Vinovea. On nous donne des vins à reconditionner et on les transforme en échantillons pour pouvoir créer plein de dégustations.
Bon, c'est sympa. Allez, on réagit. Dave Cobol, vous en pensez quoi ?
Joker ? Ouais, non, plus sérieusement, je trouve que le flacon, jusqu'à un certain point, conditionne un peu l'impression. Alors, je sais que c'est très subjectif. J'ai eu des expériences avec ces petits flacons, notamment avec une appellation qui a conditionné beaucoup de vins de domaine dans ces flacons. Il s'agit d'une appellation de Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Les vins n'étaient franchement pas terribles, il y avait des meilleurs que d'autres, ce qui est normal dans une série. Ce qui m'a surtout posé problème, c'était les rosés qui étaient tous conditionnés dans des versions transparentes. Alors là, c'est un problème qui n'est pas lié à ce format, ni à la matière, ou PET. C'est le fait que les flacons transparents, qu'ils soient en verre ou en PET, prennent la goutte de lumière, et même à travers le carton dans lequel ils étaient emballés, ils étaient tous complètement flingué,
ouais,
ces
flingué,
vins.
Quoi.
Donc ça, c'est une remarque générale à tout le monde qui met ses vins en bouteille transparente.
Petite ou grande bouteille, quoi.
À éviter.
Jacques-Olivier Pèze, en tant que professionnel du marketing, c'est une bonne idée, non?
Oui, c'est absolument, c'est évidemment une bonne idée. J'imagine qu'il va y avoir pas mal de recherche et développement. Votre passé d'ingénieur plaide pour probablement en cela. La question que je me pose, c'est sur le format. Et en fait, c'est une question toute personnelle sur la dégustation. 20 millilitres, c'est le bon format.
Alors
on est à 2 centilitres, 20 millilitres.
Un millilitre, oui.
20 millilitres, donc très, très clairement, on a repris ce qui se faisait dans les événements de dégustation. Quand vous allez aux événements de dégustation d'Ampuy, par exemple, bah, vous ne goûtez pas 20 millilitres, mais 10 millilitres. Et vous arrivez à vous faire une idée avec ça.
On retrouve concrètement, aussi... nous, on a pu goûter à 2. Le problème, c'est qu'on ne peut pas revenir sur le
c'est
vin.
C'est ça. Donc c'est la question que vous posez.
Oui.
Okay. Et en fait, c'est aussi le format teasing. Hein, c'est une première impression sur le vin. Quand on a Château Mango qui fait...
Et ça donne envie d'aller plus loin ou pas.
Exactement, qui fait une opération avec ses cavistes. Il leur
Florence, vous pensez quoi ensuite,
bah, je pense que c'est peut-être une bonne idée pour les élèves qui font le WSET. Est-ce que vous avez pensé éventuellement à travailler avec...
Bien sûr, on est en collaboration avec le WSET depuis maintenant plusieurs mois. Il y a encore une nouvelle chose qui va sortir très très bientôt. En fait, on a un site qui s'appelle etasting.com et qui vend les différents packs pour accompagner niveau 1, 2, 3, et ça va aller plus loin.
Mais à distance, parce que moi j'enseigne le WSET, mais pas à distance, donc en présence, donc c'est pas pour nous.
Oui. C'est à distance. Quand vous êtes plus que 6 autour de la table, ouvrez une bouteille. Notre échantillon, il n'est pas là en remplacement de la bouteille. Hein, il est en
Philippe Dorval, pour terminer, Philippe, vous en pensez quoi?
Moi j'en pense plutôt du bien, et je suis assez d'accord en même temps avec les réflexions autour de la table. Je ne vois pas trop l'utilité, nous, en restauration. Ça peut peut-être être utile à voir. C'est vrai que quand un client va dans un restaurant, on a plutôt tendance à
un vrai verre ou une bouteille, quoi.
À le faire goûter parce que voilà, la situation est un peu différente. Surtout quand on a plusieurs millésimes du même domaine, etc. Je pense que ça n'existe pas nécessairement toujours. C'est pas toujours disponible.
On comprend bien la logique économique, coût de transport, légèreté et absence de gaspillage.
Et tout recyclage, ça, recyclage.
Oui, enfin, bon, tout se recycle maintenant. Le verre se recycle aussi. Mais le reste, oui, je comprends la logique économique. Par contre, la logique qualitative, je suis un peu réservé, je suis pas sûr.
Bon, à suivre. Merci en tout cas, Grégoire. Il y a un site internet, non, pour vous rendre visite?
Oui, alors le site internet, c'est vinovae.com.
V-I-N-O-V-A-E, voilà. C'est ça?
Et pour terminer, nos meilleurs ambassadeurs, même si David a eu une mauvaise expérience.
Mais David dit l'anglais, faut bien.
On a aujourd'hui, c'est vraiment notre grande satisfaction, on a 350 000 dégustations qui ont été faites grâce aux Vinote à partir seulement de 10 000 bouteilles.
Bon, c'est un bon début. Bravo en tout cas à vous, à votre associé Invino Sud Radio. On retrouve Philippe Forbrac.
Merci beaucoup.
Président de la Sommellerie française, pour nous parler d'un bel endroit, le duché d'Uzès.
Et oui, Uzès, dans le Gard.
Hier, on parlait d'Altesse, là, le duché. Voilà. On continue dans l'élégance.
Hein. De l'Altesse à l'Uzès, finalement, il n'y a que l'histoire de d'Es.
Oui.
C'est une jolie appellation. À l'ombre ou au lever pas loin du pont du Gard, qui est quand même aussi un site assez remarquable dans le secteur, et finalement pas très loin d'Avignon. C'est vrai que quand on descend dans le sud et qu'on fait la route entre Avignon et Nîmes, il est assez facile de faire un petit détour dans un endroit qui est assez remarquable. On y fait du vin depuis longtemps, hein. C'est comme toutes ces régions méditerranéennes la plupart du temps, et pas très loin des grands fleuves aussi, puisque l'on n'est pas très loin du Rhône. On y produit des vins depuis très longtemps. La réglementation finalement a évolué, et c'est en 2013 seulement presque que cette appellation a été reconnue appellation d'origine contrôlée, enfin, que ce secteur a été reconnu en tant que tel. On y produit à la fois des blancs et des rouges, mais aussi des rosés. Voilà, on sait que c'est tendance aujourd'hui, etc. On n'est pas très loin, géographiquement parlant, de Tavel, qui est aussi dans le même département. Mais pas du même style de vin, finalement. Tavel est quand même connu pour sa structure, sa densité, sa puissance, même si aujourd'hui les tavelles se
deviennent moins rosées,
un peu plus dans l'esprit un peu provençal, mais c'est un petit peu dommage parce que c'est, ouais. c'est un peu
c'est
le repère.
Très dommage. Hein.
Mais néanmoins, il faut des rosés issus de Syrah, Grenache traditionnel, de Cinsault, qui est quand même le cépage qui est le plus pertinent souvent pour élaborer des rosés, mais également d'un peu de Carignan, pas trop pour le rosé, mais on en trouve quand même encore un peu, et de Mourvèdre, qui fait les beaux jours, certes, de l'appellation Bandol, dont on parle de temps en temps, mais qui peut donner aussi des jolis résultats dans ce département. Il faut rappeler d'ailleurs que le Mourvèdre, avant de la Bandol, s'appelait le plan de Saint-Gilles, et que la première fois où il est connu en France contemporaine, en tout cas, c'est dans le secteur gardois. Les blancs sont élaborés à partir de divers cépages. La clairette, notamment pour son côté très aromatique, le grenache pour sa densité, la marsanne pour sa structure aussi et sa fraîcheur, tout comme le rôle ou encore l'uniblanc. Et on a aussi tendance, et ça fait beaucoup de cépages tout ça, hein, mais avoir aussi du vionnier, qui est un cépage qui aujourd'hui est assez prisé dans le
tendance,
coin,
très tendance.
Avec ses parfums classiques de violette, d'abricot, de fruits du verger, enfin, etc. Et qui donne des vins qui ont une évolution pour les blancs en tout cas assez rapide. Et franchement, ils sont super intéressants à partir de la première année de production jusqu'à 2-3 ans. Après, c'est un petit peu plus aléatoire.
Jusqu'à 5 jours après les vendanges, après, c'est fini.
C'est ça, oui, c'est vraiment le vin des vendangeurs, c'est ça, des ramasseurs de raisins. Les rouges sont bien entendu, j'allais dire, les plus classiques dans la région. On retrouve exactement les mêmes cépages que pour faire le rosé. Syrah et Grenache, qui sont les deux cépages qui sont les deux références aujourd'hui. La Syrah pour la densité de la couleur, les parfums aussi de fruits noirs, d'épices assez traditionnels. Le Grenache pour le côté généreux, un peu pulpeux, plus marqué par les arômes de cerises assez mûres, un peu kirschées, et toujours très agréable, avec pour le coup un bon potentiel d'évolution. Il est dommage pour le coup de les boire avant 3-4 ans,
ouais.
C'est un peu dommage, même si certaines cuvées, on peut revenir à ce qu'on évoquait récemment, c'est toujours difficile de définir le style global d'une appellation, chaque vigneron pouvant faire des choses distinctes, mais globalement, il est un peu dommage de les boire trop jeunes, et par contre, dès qu'ils prennent un peu d'âge, le côté épicé, la palette aromatique se complexifie, le bouquet apparaît.
Quelques vignerons peut-être, Philippe Anne-Paloubet ?
Oui, il y a plein de choses à raconter de plus, mais 77 communes quand même, hein, c'est beaucoup. Quelques vignerons, mon confrère Philippe Nuswitz, oui, président des sommeliers d'ailleurs du Languedoc-Roussillon.
Fait des vins remarquables, ancien, très bien goûté.
Ancien sommelier, vigneron maintenant, même des meilleurs sommeliers de France à l'époque, avec le domaine Aurégna, franchement c'est très beau.
Très bon.
Le domaine Deleuze-Rochetain, la cave de Durfort faisant partie des communes qui ont dans cette appellation. Castelnau est un tout petit domaine qui fait un bio remarquable qui s'appelle le domaine de la Malaigue.
Merci beaucoup Philippe Forbrac, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin Nicolas, place de la Madeleine à Paris, avec le Vide Quiz.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine à Paris avec Florence Corbalan et le Ville Quiz, Florence.
Oui, je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, à savoir le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Voici la question de ce week-end. Que vend Thibault Lamarque avec sa marque Castali ? Des fontaines à champagne ? Réponse A. Des fontaines à vinaigre, réponse B. Des fontaines à eau, réponse C. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci Florence. Invino sur Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux, pour nous parler de l'importance du flacon.
Oui, le flacon qui contient le vin.
De la bouteille, vous voulez dire ?
Oui.
Ah.
Pas que
forcément.
La bouteille. Pas que la... En tout cas, en amont du verre dont va nous parler notre éminent confrère Jacques-Olivier Pesme tout à l'heure. Alors, le vieux dicton « Qu'importe le flacon pourvu qu'on a l'ivresse que, » qu'il faut attribuer, je crois bien, à Alfred de Musset, n'a plus cours dans notre monde actuel aseptisé, où il faut prêcher la modération de toute chose. Donc, je ne parlerai pas...
C'est une très
pas
bonne chose, David.
C'est une très bonne chose, on est d'accord, Alain. Donc, je vais parler d'autre chose. Je vais parler plutôt de l'importance du flacon, et surtout pas de l'ivresse, qui n'est pas ma préoccupation.
Non, bien sûr.
L'importance du contenant pour le vin. À la fois, alors on peut segmenter ça, les questions par la taille, par la matière, et même par sa couleur ou l'absence de couleur. Et là, il y a un petit piège. Commençons par la couleur. C'est de la transition logique. La couleur d'une bouteille en verre ou en plastique a son importance. Pourquoi ? Parce que le vin est un produit fragile à différentes choses, et notamment à la lumière. On a souvent cité l'ultraviolette, mais il n'y a pas que ça dans les ondes qui peuvent endommager le vin. Il suffit, vous pouvez faire l'expérience chez vous, de prendre une bouteille de vin qui est dans une bouteille transparente, de le mettre dehors à la lumière du jour, dans une demi-heure, la bouteille, le vin est flingué. Il a un goût épouvantable, vraiment désagréable, et ça ne va pas revenir à l'état normal. Donc le vin est fragile, et plus il est pâle, plus il est fragile. Ça veut dire que les vins blancs, les vins rosés, sont hyper susceptibles. C'est pour cela que je ne comprends absolument pas les vignerons qui insistent à mettre des bouteilles de vin blanc, que ce soit avec ou sans bulle, ou des vins rosés, en bouteille transparente, pour montrer la couleur, parce que si c'est stocké dans un rayon qui n'est pas protégé de la lumière, c'est-à-dire le cas normal... Dans
bien sûr, le vin sera altéré largement.
Le vin est à risque, et à haut risque. Alors... et j'ai eu une expérience récemment avec, dont j'ai parlé tout à l'heure, des petits flacons, des PET de Saint-Nicolas-de-Bourgueil rosé, qui étaient tous avec un goût de lumière, même s'ils étaient protégés dans un petit carton de, qui devait être un peu translucide en carton blanc. J'ai eu aussi une expérience très difficile en champagne, où lors de plusieurs dégustations de champagne, une des cuvées de certains vignerons était en bouteille transparente, c'est à la mode. Ils les avaient mis sur une table dans une salle de dégustation avec une bonne lumière zénitale, condition parfaite pour la dégustation. Toutes les bouteilles dans ces verres-là, transparentes et flinguées.
Incroyable.
Et ce qui m'a étonné, c'est que la plupart des vignerons s'en étonnaient eux-mêmes. J'ai dit, pourquoi vous ne mettez pas la bouteille sous la table ? Ah bon, on ne savait pas.
Même les pros n'étaient pas au courant.
Ben oui, ouais. Non, c'est un problème. Alors, après la couleur, la matière. Alors, bois, parce qu'avant, le vin était transparent en barré, qui est tiré directement du bois, donc on n'a plus ces occasions aujourd'hui, mais on a les contenants en fibre de verre ou en plastique pour les gens qui achètent le vin au litre et au degré, donc ça existe. Le bib, qui est une poche en aluminium plastique alimentaire et qui conserve très bien le vin, surtout après tirage, donc c'est une solution excellente techniquement pour servir des vins au verre quand vous n'avez pas un grand débit. Le verre, le plastique, etc. Donc, inerte et résistance, sans oublier l'importance de l'étanchéité qui entraîne évidemment le mode de fermeture. C'est-à-dire que le liège massif n'est pas particulièrement étanche. Enfin, s'il n'est pas parfaitement étanche, il est à défaut. Tandis que le verre, la capsule à vis ou le bouchon reconstitué est plutôt étanche. Donc voilà, tout est un peu lié dans cette affaire-là. Alors, le plastique en question, est-ce qu'on sait si la matière est totalement stable et inerte dans le temps ? Est-ce qu'on a vraiment des études sérieuses sur ça ? Je n'en sais rien, peut-être qu'on les a, mais je pose la question. Le bib, j'ai constaté sa capacité à la conservation. J'ai testé un été, il y a quelques années, un vin dont j'avais vidangé une partie en bib. Je l'ai laissé dans ma cuisine pendant l'été, pendant 15 semaines. Je suis revenu, le vin était impeccable. C'était un haut médoc, pour le nommer Château de Ville-Georges, je crois. Le vin était parfait, donc ça conserve très bien. Et puis après, il y a les aspects psychologiques et habitudes, donc il ne faut pas négliger l'importance. Les gens ont tellement l'habitude de boire des vins, et surtout les grands vins, dans du verre, que le présenter dans un autre conditionnement,
oui, ça perturbe.
Tout de suite, voilà, ça perturbe, et du coup, on a un jugement moins favorable. Et ça, c'est très vrai, je pense que Jacques-Olivier nous parlera aussi de ça dans la matière de verre, en verre à table. Alors, dernier sujet, la taille. Nous avons, je pense, tous constaté que plus grand le format, plus lent est le vieillissement et plus homogène. Alors, je n'ai pas une explication scientifiquement valable là-dessus. J'aimerais bien en avoir s'il y a des auditeurs qui peuvent nous renseigner.
En tout cas, c'est un fait, quoi.
Mais si on veut garder le vin longtemps, un vin capable de garder, acheter des Magnum, ça marche beaucoup mieux.
Merci beaucoup, David Cobold. De InVino sur Radio, on retrouve maintenant Jacques-Olivier Pesme, CEO de Advisor et professeur Wine Business à l'Université de Colombie-Britannique ainsi qu'à l'Université d'Adélaïde. Aujourd'hui, on parle d'un succès mondial, mon cher Jacques-Olivier. Hein.
Oui, alors je vais vous parler d'une histoire, c'est une excellente transition avec le sujet que vient de présenter David. C'est une belle histoire, comme on trouve souvent dans les sagas familiales, se déroule à Kufstein, en Autriche, mais aurait pu prendre place aussi bien en France ou encore en Allemagne, dont la proximité culturelle avec l'Autriche est bien connue. Pourquoi l'Allemagne ? Parce que l'Allemagne est connue pour la réussite de ses entreprises familiales, solides, dites de taille intermédiaire, et que l'on retrouve, et on le retrouve dans cette success story que je vais vous présenter, exactement les mêmes ingrédients. Cette entreprise, c'est Riedel, connue, probablement la marque de verre la plus connue au monde dans l'univers du vin, appréciée des dégustateurs, elle est aujourd'hui synonyme de qualité, d'expression aromatique forte.
Et de cherté.
Et de prix élevé.
On va parler de prix un peu. Prix,
bon, alors, c'est une boîte autrichienne, quand
oui,
même.
Oui, elle est autrichienne depuis 1756. Nous en sommes actuellement à la 11e génération. Elle a été tchécoslovaque, je dis bien tchécoslovaque, à l'issue de la Première Guerre mondiale, lorsque le pays, la Tchécoslovaquie, est créé. Et elle va le rester tchécoslovaque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où les Allemands réquisitionnèrent l'entreprise pour la fabrication de produits utiles à la guerre, comme des écrans radars. Et puis, elle a été reprise par la Tchécoslovaquie à l'issue de la guerre, alors que Walter Riedel, alors, est emprisonné pendant 10 ans en Russie. En 1955, il est libéré. Évidemment, l'entreprise Riedel, telle qu'on la connaît, n'existe plus. Et ce sont ses amis, les Swarovski, qui sont connus pour être les inventeurs du Strass, notamment, qui les aident à racheter une verrerie à Kufstein, donc on s'y retrouve, à la frontière allemande. Et de là, l'histoire repart.
Mmh, donc l'histoire, le vrai succès, Jacques-Olivier, il date de... Il remonte à quoi, 60 ans ?
Une soixantaine d'années. C'est à l'époque Klaus Riedel, à la fin des années 50, qui est le premier à reconnaître lien avec ce que disait David, l'effet des formes de verre et l'influence que cela porte sur la perception des boissons alcooliques. Il lance la série Sommelier, aujourd'hui toujours connue, existante. La première série de verres à être basée sur le caractère et le style de vin. Le premier connu, c'est ce qu'on appelle le Bourgogne Grand Cru, lancé en 1958. Pour faire simple, intéressant, il possède à l'époque, enfin il possède toujours un long pied, alors qu'on les préfère courts. Il est plutôt grand, on préfère alors les verres petits. Il est sans décor, on les aime à l'époque bien bariolés. Bref, c'est un flop terrible. Mais il insiste, et l'innovation, la spécialisation de cette entreprise, c'est bien la clé du succès d'une entreprise aujourd'hui qui pèse quand même 250 millions d'euros, qui emploie 1200 collaborateurs, qui travaille dans plus de 100 pays dans le monde.
Ouais, alors, ça s'appelle le sommelier, tiens, Philippe Forbach. N'importe qui peut utiliser le mot sommelier là, pour faire un verre, du papier toilette.
Alors, c'est, non. À l'époque, en 1958, c'était moins protégé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une définition légale, l'OIV est passé par là.
Donc, on crée une bouteille avec marqué sommelier, en théorie, on n'a pas le droit.
En théorie, voilà, il y a des recours possibles, même, notamment c'est de la part du nom de la sommelier française dont j'ai les clés aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous touchez des billes.
Vous ne touchez rien du tout.
On veille
à ce que le terme sommelier ne soit pas galvaudé, surtout.
Ouais. Exactement. On revient vers vous. Alors, tout ça, c'est bien, mais est-ce que ça coûte cher ?
Alors, le sommelier, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une série soufflé-bouche. Hein, pas fait main, soufflé-bouche. Donc, les prix sont relativement élevés. Il faut compter environ 70-80 euros par verre.
Ah, quand même !
Ah oui, quand même.
Vaut mieux pas les casser. Hein.
Oui, puis il faut du bon vin dedans.
Ce sont de jolis verres. Mais intelligemment, si je puis dire, d'un point de vue industriel, Riedel a su étoffer sa gamme au fil des années. Et vous pouvez aujourd'hui acheter de jolis verres pour apprécier un vin entre amis pour une quinzaine d'euros environ.
Donc, il y a d'autres gammes, c'est ça, de verres ?
Oui, il y a d'autres gammes. En fait, selon les générations, ils ont chacun sorti leur verre. Un peu emblématique.
11 générations, 11 verres.
11 générations. Vous avez par exemple un verre connu qui a connu un grand succès en 1986, sorti par qui s'appelait Gorg Riedel. Et qui avait sorti un verre qui s'appelle le Vinum, adapté à chaque cépage, mais celui-ci est fabriqué mécaniquement. Donc évidemment, le coût à l'achat est beaucoup moins cher. Et puis vous avez, aujourd'hui, l'entreprise est dirigée par la 11e génération, par Maximilian, qui a vécu à New York, et qui lui aussi a créé son verre que vous devez peut-être connaître. C'est la série O, qui est un verre sans pied, et qu'il a créé notamment, qu'il a pensé ce verre lorsqu'il habitait à Manhattan, tout simplement pour, on me l'a expliqué, pour des questions d'espace. Il vivait dans un petit appartement, et les Américains qui le voyaient disaient, mais c'est bien gentil, vous verrez Riedel, mais un grand pied, il faut beaucoup d'espace, il faudrait que tu penses et que tu songes à nous proposer quelque chose qui peut rentrer assez facilement. Et c'était la création du VRO qui est un gros succès.
Et aujourd'hui, donc, l'entreprise autrichienne s'inspire des grandes réussites industrielles allemandes ?
Oui, je faisais le parallèle au début, parce que c'est intéressant. Il y a une espèce de mode opératoire quasi constant que l'on observe dans beaucoup d'entreprises industrielles allemandes qui sont restées familiales, et on observe exactement les mêmes chez Riedel qui font ce succès. Un, j'ai insisté, le pari de la qualité et de la spécialisation, on l'a dit, le verre, les verres, l'expression aromatique forte, des verres adaptés à chaque type de cépage. Deux, le poids de la famille, entreprise familiale, très important. Les questions de succession sont très, très tôt résolues. On sait déjà, je vous parlais 11e génération, et puis ça vient, on reste en famille. L'export, très très vite. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui opère dans plus de 120 pays dans le monde, avec des filiales un peu partout. Et ils l'ont fait très tôt, alors que l'entreprise ne marchait pas comme elle marchait aujourd'hui.
David, vous avez une question ?
Oui, j'ai juste un point de vue. À force de développer tellement de verres différents et à dire qu'il faut un verre différent pour chaque cépage et chaque style de vin, il faut avoir un grand couloir et un ébéniste à domicile pour créer des placards en dehors d'avoir le pognon nécessaire pour l'acheter. Donc, ce n'est pas toujours très praticable. Je pense qu'un verre moyen bien conçu. Évidemment, je ne nie pas l'effet du verre sur les arômes, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir 15 000 verres dans son placard.
Le vinum, pour ça, est plutôt pas mal.
Jacques Olivier,
peut ouais. correspondre à plusieurs vins. Mmh. C'est l'œil là, du dégustateur. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'explique, c'est la partie entreprise. Et c'est de voir comment, sur une logique de spécialisation, ils l'ont poussé jusqu'au bout et décliné ça pour tout type de vin. Après, on pourra discuter. Mmh. Mais en ça, c'est une entreprise intéressante. Et puis, dernier argument typique que l'on retrouve dans cette entreprise familiale, germanique, de culture germanique, c'est une prudence extrême vis-à-vis des investisseurs, donc on reste bien dans un cadre exclusivement familial. Je rapporte une petite anecdote qu'on me citait, Riedel, c'est la famille Riedel, l'un d'entre eux me disait, nous pourrions vendre facilement, l'entreprise sera alors très certainement délocalisée, que ferions-nous après la vente? Nous aurions beaucoup d'argent, mais pourquoi faire? On est bien sur du pragmatisme à l'allemand.
Ouais, c'est QFD.
Oui, puis l'attachement à un métier, je trouve qu'il ne faut pas nier ça.
Il y a une 11e génération, c'est très bien ça. Merci Jacques-Olivier, merci également à vous Florence, David et Philippe Aubrac. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'InVideo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, InVideoRadio.fm ou notre page Facebook. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez le caviste Nicolas à Paris. D'ici là, excellent déjeuner, c'est le moment. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande démodération.
Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.